les manifestes qui ont changé le monde. Gérard Courtois, Didier Lesky.
Depuis deux siècles, ils ont fait date et ils ont fait école. Utopiques et prosélytes, didactiques ou dogmatiques, des manifestes ont scandé l'histoire des mouvements politiques et artistiques. Textes de rupture, portés par les avant-gardes du moment, ils ont ouvert des brèches, inventé des modernités et donné raison à Karl Marx. Les idées peuvent être des forces matérielles capables de changer le monde. Aujourd'hui, la déclaration Schuman du 9 mai 1950.
En 1985, la communauté européenne a décidé de se doter de symboles pour mieux affirmer son identité. Elle en a choisi trois, les deux premiers sont devenus familiers, le drapeau bleu aux 12 étoiles d'or et un hymne, l'hymne à la joie de la 9e symphonie de Beethoven. Le troisième symbole n'a guère marqué les esprits en revanche, c'est l'instauration le 9 mai dans chaque pays de l'Union d'une journée annuelle de l'Europe pour faire mieux connaître ses réalisations et sa réalité. C'est logique que cette date du 9 mai ait été choisie, surprenant qu'elle soit un peu oubliée, parce que c'est une date effectivement fondatrice. En 1950, le 9 mai en effet, Robert Schuman a posé la première pierre d'une construction qui n'a cessé de s'élargir et de s'approfondir depuis. Ce jour-là, le ministre français des Affaires étrangères proposait tout bonnement de mutualiser la production française et allemande de charbon et d'acier, de la placer sous l'autorité d'une autorité indépendante des États. 5 ans seulement à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'initiative était spectaculaire. La France tendait la main à l'ennemi d'hier et associait à cette réconciliation les 3 pays du Benelux et l'Italie. Fondée par ces 6 pays, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, allait devenir la matrice de l'Europe contemporaine, car la méthode Schuman, cette méthode pragmatique, progressive, a présidé au développement futur de l'Europe depuis la création de la Communauté économique européenne, le traité de Rome en 1957, jusqu'à la création de l'euro en 1999. Cette déclaration Schuman du 9 mai 50 n'a pas été, loin s'en faut, le premier manifeste en faveur de l'unification européenne, mais il est celui qui a fait de cette utopie ou de ce rêve une réalité. Pour retracer cette histoire et l'analyser, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Loiseau. Bonjour Nathalie Loiseau.
Bonjour.
Vous êtes diplomate, vous avez été ministre des Affaires européennes entre 2017 et 2019. Vous avez quitté le gouvernement pour mener la liste de la majorité présidentielle aux élections européennes de 2019, les précédentes, et vous y avez obtenu 22% des suffrages et 21 élus. Et depuis, vous présidez la sous-commission sécurité et défense du Parlement européen, ce qui est une fonction assez stratégique dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine. Et nous accueillons également Laurent Varlouzet. Bonjour Laurent Varlouzet.
Bonjour.
Vous êtes agrégé d'histoire et professeur d'histoire de l'Europe, l'université Sorbonne Université. Vous avez publié en 2022 deux ouvrages très éclairants. D'une part, une histoire de la construction européenne depuis 1945 à la découverte, livre synthétique. Et d'autre part, un ouvrage plus savant qui est intitulé « Europe contre Europe, entre liberté, solidarité et puissance » aux éditions du CNRS. Alors, Nathalie Loiseau, j'évoquais rapidement le contexte de cette déclaration en 1950 de Robert Schuman. Il évoque dans cette déclaration, dès les premiers mots, la question de la paix mondiale et des dangers qui la menacent. Quelle est en gros la situation de l'Europe en 1950 ?
Alors, la Deuxième Guerre mondiale est terminée, mais l'Europe est effondrée. Évidemment, des millions de morts, des millions de déplacés aussi. En 45, il y a 12 millions d'Allemands qui rejoignent l'Allemagne de l'Ouest. Une Allemagne qui elle-même est occupée. En Allemagne, on meurt de froid et de faim en 1945. En France, le rationnement ne sera terminé qu'en 1945. 1949, les infrastructures, les ports, les voies ferrées, les ponts sont détruits. Des villes entières, Berlin, Dresde, mais aussi Varsovie, Le Havre, Brest, sont rasées. Selon les pays, on considère que les destructions correspondent à peu près à 5% de leur PNB. Alors, entre 45 et 50, on va voir arriver le plan Marshall, qui va sérieusement aider l'Europe à se redresser, plus...
Le plan américain.
Le plan américain, qui craint que l'Europe soit affaiblie face à une Union soviétique qui, elle, s'étend. On y reviendra peut-être.
Sûrement.
Alors, évidemment, après une guerre, ça reprend... L'Europe de l'Ouest se redresse, on voit un PNB qui bondit, mais on est loin du compte et on voit déjà des efforts pour essayer de s'organiser avant même la déclaration Schuman. Le Benelux est créé en 1948, il parle déjà d'une union douanière, il y a même d'autres initiatives. Il y a une initiative qui s'est appelée le Fritalux, qui a échoué, mais c'était France, Italie, Benelux, mais qui ne comprenait pas l'Allemagne. Et c'est là où on voit le caractère complètement innovant de la déclaration Schuman qui se tourne immédiatement vers l'Allemagne.
C'est une audace même.
C'est une, je vais pas dire une audace folle, mais oui, on a vu les commentaires de l'époque. Je me souviens René Raymond disant à quel point c'était extraordinairement
l'historien
audacieux,
célèbre de des droites françaises.
Exactement, et qui mesure ce que ça veut dire pour la France. De se tourner vers l'Allemagne. On n'a jamais vu dans l'histoire deux pays qui viennent de se faire autant de guerres décider de se rapprocher autant. Et c'est vrai que...
C'est trois guerres en un siècle.
C'est trois guerres en un siècle. Et d'un seul coup, la déclaration Schuman décide de se mettre d'abord à égalité de droits et de partager de la souveraineté. Alors même si ça n'est que le charbon et l'acier, c'est tout de suite... très audacieux, ça va très loin, et on se souvient des conditions dans lesquelles ça a été imaginé, puis discuté avec l'Allemagne. Je crois qu'Adenauer n'en revient pas quand un émissaire de Robert Schuman lui propose cette...
N'allons pas trop vite en besogne, si je puis dire. Laurent Varlouzet, Schuman a une phrase extrêmement saisissante dans cette déclaration de 1950. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu les guerres. Qui est un résumé assez brutal, mais efficace, à la fois du rêve européen qui a animé qui a parcouru l'Europe dans les années 20 et 30, à quand remontent ces velléités d'unification, et pourquoi et comment elles resurgissent après guerre. Et on viendra bien sûr à la déclaration tout de suite après.
Oui, vous avez raison, il faut souligner d'abord que la déclaration Schuman, effectivement, est un texte extraordinairement audacieux. Trois guerres franco-allemandes en 70 ans. L'Allemagne qui a été déclarée Reich le 18 janvier 1871 dans la Galerie des Glaces à Versailles. Donc vraiment une histoire de deux peuples frères ennemis ou cousins ennemis. Et en même temps, la déclaration Schuman, vous avez raison, s'inscrit dans une histoire plus ancienne des idées européennes. Alors, on cite souvent... Victor Hugo, même Saint-Simon, qui avait déjà pensé à des idées d'Europe, mais assez vagues au XIXe siècle. Bon, en fait, la naissance de l'idée européenne, au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire réinventer les relations internationales entre les peuples et les États européens pour établir une paix permanente, que ce soit par une fédération ou par une coopération entre États, de manière pacifique, de manière démocratique, volontaire, ça date de 1918-1919. C'est à partir de ce moment-là qu'on discute de l'idée européenne au sommet. Et d'ailleurs, Robert Schuman y fait référence dans sa déclaration. Il dit que la France, depuis 20 ans, fait des efforts. Et donc, il parle en 1950 et il fait référence, en fait, au discours brillant de 1929 qui, à la tribune de la Société des Nations, avait déjà proposé...
Aristide Briand, le ministre des Affaires étrangères français.
Voilà, donc c'était... effectivement, il faut le préciser, c'était le ministre des Affaires étrangères français. Donc, c'était pas un intellectuel comme Victor Hugo, comme Saint-Simon. C'était quelqu'un qui engageait son pays déjà dans une coopération européenne en 29. Alors c'était moins audacieux, bon, ça c'est ensuite, ça a été un échec, puisqu'ensuite il y a eu la crise de 29 qui a relancé les nationalismes. Mais voilà, c'est important de dire que la déclaration Schuman ne vient pas de n'importe où. Elle s'appuie sur un débat sous-jacent depuis 20 ans, 30 ans, sur la nécessité de réinventer les relations entre les peuples et les États européens. Après la boucherie de la Première Guerre mondiale, hein, cette première guerre d'autodestruction de l'Europe, juste un chiffre, hein, François Héran l'a rappelé, les Français nés en 1894, la moitié sont morts en 1918. Un quart est mort, en fait, les hommes, hein, français nés en 1894. Un quart est mort de maladies infantiles. Bon, il y a beaucoup de décès prématurés à l'époque. Un quart est mort sur le front. Et donc, il n'en reste que la moitié en 1918.
Mais François Héran, qui est le démographe. Mais justement, cette idée de faire l'Europe pour éviter la guerre, elle est d'autant plus prégnante qu'en face, on a cette division de l'Europe en deux, cette Europe un peu subtilisée, comme va dire après Milan Kundera, et donc la peur d'une guerre avec le bloc de l'Est, Nathalie Loiseau.
Mais ce qui se passe, c'est le début de la guerre froide, très simplement. D'une part, la partie occupée par l'Union soviétique de l'Allemagne est sous une férule terrible, très vite. On a le coup de Prague en 1948 qui met fin aux espoirs démocratiques.
Il faut rappeler qu'est-ce
de
que
la
c'est
Tchécoslovaquie.
Le coup de Prague.
Ben c'est les staliniens qui prennent le pouvoir contre les démocrates en Tchécoslovaquie.
Au même moment, le blocus de Berlin.
On a au même moment le blocus de Berlin qui ôte toute illusion sur la manière dont les soviétiques envisagent leur occupation de l'Allemagne de l'Est. On a la création du Comecon en 1949 et on a la fameuse doctrine...
Le Comecon qui est cette alliance entre les pays de l'Est avec l'Union soviétique.
Ceux qui ont été forcés par les soviétiques de refuser le plan Marshall. Zhdanov dit à ce moment-là, il faut choisir son camp. Donc on ne peut pas bénéficier d'argent américain, même si on fait partie de l'Europe qui a été détruite. On doit être dans le Comecon, donc il n'y a aucune illusion à se faire. Et d'ailleurs, 1950, c'est le début de la guerre de Corée. Donc on est vraiment dans un climat de guerre froide. Et en même temps, ça n'est pas la seule inquiétude. L'autre inquiétude, c'est qu'est-ce qu'on fait si on humilie l'Allemagne, si on refait un traité de Versailles bis, et on voit bien que même en France... on est tenté, on occupe la Sarre, on bénéficie de la richesse de la Ruhr.
Vous avez parlé tout à l'heure, Laurent Varlouzet, des années 20. On a déjà eu avec la Ruhr un conflit extrêmement fort entre la France et l'Allemagne.
Oui, tout à fait. La Ruhr a été occupée militairement par la France dans l'immédiat après Première Guerre mondiale pour réclamer des réparations. Donc ça, c'était la voie un peu de la confrontation qui n'avait pas fonctionné, que la France essaie de réactiver en 45. En fait, en s'alliant avec l'Union soviétique, mais c'est une illusion, ça ne fonctionne pas. Et donc, les Français se voient obligés de trouver un autre moyen de contrôler l'Allemagne. Et ce sera du coup à la fois la construction européenne et la construction du bloc atlantique. Donc c'est effectivement la guerre froide qui en fait précipite, qui cristallise la construction européenne. C'était une idée ancienne qui était déjà là, qui était sous-jacente. Et c'est vraiment la guerre froide qui oblige les Européens finalement...
La menace soviétique, pour dire les choses simplement.
La menace soviétique qui oblige, qui pousse les Européens à mettre en œuvre cette idée qu'ils avaient envisagée dans l'entre-deux-guerres.
Et pour la France, vous dites contrôler l'Allemagne, qu'est-ce que ça veut dire précisément?
L'enjeu là, l'enjeu général en fait, c'est que la France doit abandonner ses rêves de démantèlement de l'Allemagne. Alors il y a quand même deux Allemagnes, hein. Je crois que c'était Claude Moria qui disait j'aime tellement l'Allemagne que je suis content qu'il y en ait deux, mais la France aurait aimé avoir plutôt 3, 4, 5 Allemagnes. Finalement l'Allemagne était un pays assez récent, hein, créé en 1871, et donc la France doit abandonner cette politique parce que l'urgence c'est le rétablissement de la souveraineté allemande, de l'Allemagne en tant que pays prospère, pour justement soutenir la prospérité du bloc occidental. Et ensuite, ce sera même le rétablissement de l'armée allemande. Et donc, face à ce rétablissement de l'Allemagne, là, globalement, pourquoi la déclaration Schuman a été prononcée le 9 mai? Parce que le 10 mai, il devait y avoir une conférence à Londres où les Américains, les Britanniques allaient dire, voilà, on veut supprimer les contrôles exceptionnels sur la Ruhr. Et donc, voilà, les Français étaient un peu mis au pied du mur. Et donc, la solution qu'ont trouvé les Français, c'était d'européaniser le problème, en disant, on va européaniser le problème de la Ruhr pour créer un lien un peu indissoluble, structurel entre la France et l'Allemagne, et éviter éviter structurellement, avec une solution de long terme, qu'un nouveau conflit ne se reproduise.
Alors, Nathalie Loiseau, dites-nous quand même qui était ce Robert Schuman, 64 ans, lorrain, homme des frontières, ses ennemis, ses adversaires, pardon, politiques, l'appelaient le Boche.
Ouais. Jacques Duclos l'appelait le Boche quand il entrait dans l'Assemblée nationale.
Alors, qui était ce Schuman?
C'est un frontalier, vous avez raison de le dire, né à Luxembourg, éduqué en Allemagne et puis ensuite vivant en France.
De nationalité allemande jusqu'à l'âge de 30 ans?
De nationalité allemande jusqu'à l'âge de 30 ans, parlant au début mieux l'allemand que le français. C'est pas le seul frontalier dans l'histoire de la construction européenne, ça c'est assez frappant. Gasperi, l'italien, Adenauer aussi. Ce sont des gens qui ont vécu là où l'Europe a été, je dirais, le plus troublée. Et lui, il a été meurtri par la Deuxième Guerre mondiale, personnellement. Il est arrêté, il est mis en résidence surveillée en Allemagne. Il s'en échappe. Il ne devient pas un résistant. Il se cache dans un monastère.
Il vit dans la clandestinité.
Et ça lui ressemble beaucoup, parce que c'est aussi un catholique fervent, un solitaire, un peu, je crois que c'est Bourbon-Busset qui disait que c'était un réaliste mystique, donc un homme assez particulier, et qui veut absolument surmonter les atrocités de la guerre. Il a été terriblement meurtri par le nazisme parce que c'était un admirateur de la culture allemande. Donc il a trouvé à quel point le nazisme avait trahi l'Allemagne. Et il veut construire une Europe en prenant la responsabilité de traiter le problème allemand différemment. C'est vraiment ça, sa vision. Il l'a dit, il l'a répété. On ne va pas refaire Versailles. La vengeance qui engendre Hitler, dit-il, le cercle vicieux infernal.
Je voulais juste dire un mot sur Robert Schuman, parce que c'est la déclaration Schuman, vous l'avez dit, c'est la fête de l'Europe. Et ça laisse toujours un goût un petit peu amer à certains, parce que Schuman aussi a été accusé d'être pétainiste, parce qu'il avait été ministre du maréchal Pétain pendant un mois, en fait. C'est-à-dire, au moment de la défaite, il est reconduit à son poste. Il était secrétaire d'État aux réfugiés, comme il venait justement d'une zone où de nombreux réfugiés se trouvaient. Donc il est confirmé à son poste sans avoir été consulté pendant un mois. Il vote les pleins pouvoirs le 10 juillet 1940, donc ce qui est une grave erreur. Bon, mais il n'est pas le seul, puisque seuls 80 députés et sénateurs n'ont pas voté les pleins pouvoirs, hein, dont notamment beaucoup de socialistes, hein, Blum, Auriol, Ramadier. Bon, lui a voté les pleins pouvoirs, mais il quitte le gouvernement très tôt, et dès le 14 septembre 40, il est en résidence surveillée. Il faut souligner qu'à l'époque, bon, la plupart des Français étaient soit Vichy, soit attentistes.
Mais mis en résidence surveillée par les Allemands.
Par les Allemands, par la Gestapo, ouais. Et alors d'abord, je crois, emprisonné, puis mis en résidence surveillée, puis après, il s'évade. Et donc, il faut souligner, parce que, évidemment, quand on connaît pas l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, on a l'impression que c'est une tâche, évidemment, indéfectible. Alors, d'autres personnalités de la quatrième ont aussi voté les pleins pouvoirs, hein, comme Pinet, Coty, Laniel, et aussi beaucoup de personnalités de la 4e et de la 5e ont été vichistes pendant le début de la guerre. Maurice Couve de Murville est passé à Alger en mars 1943. Maurice Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères du général de Gaulle. C'est pas pour dire qu'il était particulièrement vichiste, mais c'est pour dire qu'il était révélateur du parcours de très nombreux Français pendant la guerre.
De fait, au lendemain de la guerre, c'est de Gaulle qui referme le dossier Schuman en disant circuler, il n'y a rien à voir.
Oui, qui le réhabite. Mais bon, il fallait le lire, parce que c'est vrai que c'est une période compliquée à comprendre. Il y a eu beaucoup de controverses quand on a appris le passé vichiste de Mitterrand, je me rappelle, en 95. Voilà, c'est une période compliquée. Être vichiste pendant un mois en 1940, c'est pas la même chose qu'être au commissariat aux questions juives en 1944.
Absolument.
Mais c'est vrai que là, l'aspect chrétien-démocrate, je rebondis sur ce que vous disiez, est important, parce qu'il y a cette communauté politique, un peu entre différents décideurs, Adenauer, Bidault, évidemment Schuman.
De Gasperi.
Gasperi. Et puis, on sait qu'en coulisses, le pape, Pie XII, pousse à cette construction européenne. Et le fait qu'il soit du même bord politique crée quelque chose de complètement différent et inattendu. C'est une manière de se parler, une manière de décider très directe, très franche, entre dirigeants européens, qui va en réalité inspirer la manière dont ça va se passer au niveau de l'Union européenne. On n'est plus du tout dans la tradition diplomatique où on se fait une note verbale, on fait une visite officielle et puis on fait un communiqué final. On envoie un émissaire, on passe un coup de fil et c'est probablement
interétatique. Je pense que comme il y avait cette idée de chrétiens, ils vont au-delà de la référence unique à l'État.
En fait. Exactement.
Et Nathalie Loiseau dit on envoie un émissaire. Venons-en à la manière dont cette déclaration a été préparée, de manière tout à fait singulière. Schuman envoie, si j'ai bien compris, la veille, un émissaire à Adenauer pour lui donner la teneur de cette déclaration qu'il va faire le lendemain, midi, au Conseil des ministres français. C'est un peu hallucinant comme manière de faire.
Pourquoi tout cela, Laurent Varlouzet ?
Oui, bah alors là, il y avait l'urgence du 10 mai. Hein. Donc le 10 mai, c'était cette fameuse réunion interalliée où les Américains, les Britanniques allaient mettre la pression sur la France pour rétablir la souveraineté économique de l'Allemagne. Donc il fallait que les Français réagissent. Bon, c'était voilà, une période de troubles très importants. On a évoqué la guerre froide. D'une part, l'Allemagne venait juste d'être rétablie en tant qu'État hein, depuis 1949. C'est pour ça que ça paraît surprenant. Aujourd'hui, il y aurait des négociations entre les États. Bon, à l'époque, l'Allemagne ne comptait assez peu, en fait. Hein. Elle comptait par l'influence américano-britannique. Donc c'est pour ça que c'était les Français qui étaient à la manœuvre, parce que c'est eux qui avaient la possibilité de prendre l'initiative. Les pays du Benelux étaient trop petits, l'Italie avait perdu la guerre, la Grande-Bretagne n'était pas intéressée par la construction européenne. Donc il n'y avait que la France, en fait, qui pouvait prendre cette initiative européenne. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça s'inscrit quand même dans d'autres tentatives. Un historien américain qui s'appelle Gillingham estime que le plan Schuman aurait très bien pu être prononcé par Bidault, parce que Bidault avait formulé des idées similaires en 48. Bon, je
Bidault
pense
qu'il
qui exagère
était
un petit
à l'époque
peu,
le président
voilà,
du Conseil.
Bidault était le président du Conseil. Donc en fait, Schuman prépare le... Je ne sais pas si c'est le moment où on parle de Jean Monnet.
Vous avez déjà parlé des Américains, donc voilà. Parlons de Jean Monnet.
Alors, en fait, qui est la cheville ouvrière.
Qui est la cheville ouvrière. En fait, c'est Jean Monnet qui rédige la déclaration Schuman, qui est commissaire général au plan, donc qui est un technicien, et puis Schuman prend le texte et lui, donc du coup, le défend en fait de manière politique. Alors Jean Monnet, moi je suis président du conseil scientifique de l'Institut Jean Monnet, j'en dis un mot, je vais pas faire toute la chronologie, mais ce qui est intéressant avec Jean Monnet, c'est qu'il y a un paradoxe, un contraste, parce que l'image de Jean Monnet, bon déjà c'est pas un personnage public, et les photos qu'on a, c'est voilà un petit monsieur avec un petit chapeau, son pardessus, son costume, sa petite moustache.
Est-ce qu'il avait aussi une petite auto ?
Bah, je sais pas, mais en tout cas, c'était un peu le français moyen, en fait, Jean Monnet. Et en fait, quand on regarde sa vie, il avait une vie incroyablement romantique et mouvementée.
Et aventureuse, très
voilà,
aventureuse.
Voilà, à 16 ans, il est parti, il n'a pas fait d'études, il est parti en Grande-Bretagne, puis au Canada. Au Canada, il vendait du cognac, parce que c'était un marchand de cognac.
Pour défendre l'entreprise familiale.
Voilà, il vendait du cognac, il échangeait contre des fourrures, bon. Il a rencontré le président du conseil à 27 ans, en 1914, pour proposer de mettre en commun les approvisionnements franco-britanniques. Il a enlevé sa femme, qui avait 20 ans de moins, en 29. Ils se sont mariés à Moscou, parce qu'elle était italienne. Le seul moyen de divorcer, c'était d'avoir la nationalité soviétique. Enfin, bon, donc c'est un personnage qui est vraiment
étonnant.
Étonnant, quoi.
C'est un personnage étonnant.
Et c'est quelqu'un qui est très cosmopolite, c'est vrai, très européen, très cosmopolite. Et donc pour lui.
Très européen, mais aussi très lié aux États-Unis.
Oui, et très, très atlantiste. Hein. Alors c'est lié aussi, voilà, c'est un marchand de cognac. Et le cognac se vendait beaucoup aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Hein. C'était déjà un grand marché. Et beaucoup de familles d'ailleurs de cognac ont des origines britanniques et irlandaises. Et effectivement, lui, donc, envisage la reconstruction de l'Europe. Alors, il est déjà cosmopolite, en fait, parce qu'il était déjà la Société des Nations dans l'entre-deux-guerres. Et puis, il est européen, mais finalement, c'est une idée qui vient assez tard chez lui. Mais bon, voilà, il était très profondément européen parce que il a une vision un petit peu mécanique des choses. Il pense que c'est en mettant en commun les intérêts économiques que, naturellement, ensuite, on cessera de faire la guerre, parce qu'on se rendra compte qu'il vaut mieux mettre en commun.
C'est une donnée importante, cette idée que l'économie et les échanges vont favoriser la paix, Nathalie Loiseau.
Alors, c'est une donnée importante, c'est aussi une manière de ne pas froisser, de ne pas inquiéter, de ne pas mettre la charrue, j'allais dire, politique avant les bœufs. C'est l'Europe qui progresse pas à pas, etc. Moi, je voudrais revenir sur la manière très particulière dont la déclaration Schuman est proposée à Adenauer. À mon avis, il y a quand même deux fautes originelles. La première, c'est que les Britanniques ne sont pas consultés. Alors, on peut dire qu'ils n'étaient pas intéressés. Je crois que c'était plus compliqué que ça. Mais ça n'a pas aidé que Clement Attlee, qui était à l'époque le premier ministre britannique, s'aperçoive qu'on en avait parlé aux Américains, mais pas aux Britanniques. Qu'on considérait d'entrée de jeu qu'ils n'étaient pas importants, alors que le charbon et l'acier, ça les intéressait. Évidemment, c'est un peu une faute originelle. Ça crée un rapport avec le projet européen, dont on en verra par la suite, qui va être compliqué. La deuxième faute, c'est cet élitisme. C'est-à-dire qu'on se parle à quelques-uns et on prend une décision majeure. Après, il y aura ratification par les parlements. Mais quand même, quand on voit la suite de la construction européenne, moi, je me souviens de ce que Delors dit en 92 après la ratification de Maastricht qui, en France, est passée assez ric-rac. Il dit « L'Europe a commencé comme un projet élitiste où l'on croyait qu'il suffisait de convaincre les décideurs. Le temps du despotisme éclairé est révolu. »
Oui, enfin, pardon, mais il a été fait à Delors, en 1986, le même reproche qui pouvait être fait à Schumann en 1950, c'est-à-dire d'avoir, en réalité, d'être passé un peu
négocié
de manière furtive,
oui, sans en référer, en réalité.
En 92 qui commence à avoir ce recul sur lui-même, et il faut lui reconnaître. Et il s'aperçoit que vouloir aller toujours plus de l'avant sans forcément essayer de convaincre les peuples, ça devient dangereux. Et on le verra en France en 2005, évidemment.
Alors, venons-en à la...
Alors, juste deux choses, quand même, oui. Parce que de l'ordre des 85, Laurent, dans son discours inaugural, avait dit qu'il fallait quand même créer une Europe des citoyens, en fait. Mais après, fallait-il en trouver les leviers.
Mais dans sa méthode, il est assez furtif en 85-86.
Après, il est président de la Commission européenne. Hein. Il n'avait pas non plus les moyens de déclencher des référendums. Et Delors, ça a été le premier président qui a cherché aussi à vraiment devenir une personnalité médiatique, hein, contrairement au président précédent. Donc, il a cherché à se créer un espace public européen qui n'existait pas. Et sur la méthode
avec déjà l'idée de l'économie, puisque c'est celui qui sera l'artisan d'un tournant important de la vie politique française en 82-83.
Et sur la méthode technocratique en 50, c'est vrai, les traités diplomatiques n'étaient pas du tout discutés à l'époque. Et quand on étudie l'histoire, effectivement, de cette période-là, on est frappé aussi quand même de l'aspect technocratique de nombreuses politiques françaises. Hein, que si vous prenez la reconstruction, l'aménagement du territoire, la planification, il y a eu un livre d'Éric Monnet sur la politique de la Banque de France. Bon, les délibérations, enfin, beaucoup de choses se décidaient à Paris, en fait, hein, dans un petit groupe de fonctionnaires. Et la déclaration Schuman, c'est vraiment le cas extrême, hein, dans cette tendance.
Alors, venons-en à cette déclaration. Tout à l'heure, Nathalie Loiseau a évoqué ce qu'avait été la rupture qu'avait été par rapport à l'attitude antérieure, ce rapprochement entre la France et l'Allemagne 5 ans après la guerre. Mais il y a un deuxième postulat dans cette déclaration. Je cite Schuman, « L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. » Et au fond, c'est un bon résumé, très synthétique, Laurent Varlouzet, de ce qui allait être non seulement la méthode mise en œuvre par Schuman, mais ensuite toute une partie des développements européens.
Oui, tout à fait. Nathalie Loiseau l'a souligné. La première novation de la déclaration Schuman, c'est la réconciliation franco-allemande, qui effectivement est extraordinairement audacieuse, 9 mai 50, hein, 5 années après la fin de la guerre. Et la deuxième, c'est la méthode communautaire. Et c'est pour ça que les Britanniques n'ont pas été visés, parce que l'idée, c'est de mettre en commun de la souveraineté, même dans un tout petit domaine, qui est donc la régulation du charbon et de l'acier. Hein. C'est pas la mise en commun, en fait, comme le dit la déclaration, des entreprises. C'est la mise en commun plutôt, je dirais, des lois qui régulent le secteur du charbon et de l'acier. Et pour ça, il fallait créer un arbitre, une autorité commune, indépendante des États. Et donc, c'est là-dedans aussi que résidait la novation de la déclaration Schuman. C'est cette méthode communautaire qui associe préservation des États, des peuples, et en même temps, création d'une autorité supérieure, on pourrait dire fédérale, mais dans un domaine circonscrit. Et donc, pour ça, en fait, seul un petit nombre d'États pouvaient être susceptibles d'accepter cette délégation de souveraineté. Alors, déjà, des démocraties libérales, parce qu'il fallait accepter des divisions de souveraineté en son sein. Et puis, des pays qui voulaient remettre en cause, un petit peu, en partie, leur système de relations interétatiques du fait des traumatismes de la guerre. Ce qui ne pouvait pas être le cas de la Grande-Bretagne, qui sortait de la guerre déjà tout auréolée du fait d'avoir résisté seul face à Hitler et Staline entre 40 et 41.
Prolongeons ce que vous dites. Quelle est la réaction de l'Allemagne, du Benelux, de l'Italie. Au fond, quel est l'intérêt particulier que chacun défend dans cette entreprise collective? Laurent Varlouzet, puisque vous étiez sur ce...
Oui, en fait, je pense qu'il y a, dans tous ces pays-là, comme l'a dit Nathalie Loiseau, il y avait déjà des mouvements européens qui étaient démocrates chrétiens, ou non d'ailleurs. Hein. Par exemple, vous aviez Spinelli, qui était un intellectuel italien de gauche très, très fédéraliste. Donc l'idée européenne n'était pas confinée à la France. Il y avait cette idée que... on pouvait justement réinventer en partie les relations internationales tout en préservant les États pour trouver une solution pour maintenir la paix en Europe. Il y avait cet aspect de guerre froide. Et puis le charbon et l'acier, ça intéressait aussi beaucoup la Belgique et le Luxembourg. Hein. Le bassin charbonnier finalement est ferreux et commun à tous ces pays, un petit peu aussi les Pays-Bas. Et l'Italie, c'était plus pour des raisons politiques en fait. Avec le côté quand même, pour les Italiens, ce serait important par la suite de la construction européenne d'obtenir des avantages pour les migrants italiens, parce que l'Italie était le seul pays d'immigration. Et donc ça a joué un rôle après pour le développement de l'Europe sociale, le fait d'obtenir des avantages en termes de sécurité sociale, de retraite pour les migrants italiens allant dans les autres pays.
France Culture, Les manifestes qui ont changé le monde. Gérard Courtois, Didier Lesky.
Alors tout ça se met en place très rapidement en réalité. Cette déclaration de mai 50, immédiatement, un mois plus tard, une conférence à Paris avec les ministres concernés des six pays en question et un traité de Paris. Il y a une sorte de... Se construit à partir de là, me semble-t-il, une sorte de modèle CECA qui va provoquer des emballements, un emballement immédiat. Cinq mois plus tard, alors le président du Conseil changeait souvent à cette époque dans la 4e République. Alors, ce n'est plus Bidault, c'est M. Pleven, mais également démocrate chrétien. Et alors, Pleven, au mois d'octobre 1950, propose carrément de créer une communauté européenne de défense, c'est-à-dire de mettre en commun les armées françaises et allemande, notamment, sous le contrôle d'institutions politiques communes.
Ce n'est plus le pragmatisme, là, on est passé à autre chose.
C'est l'emballement.
Nathalie Loiseau, alors, du pragmatisme, on passe à quelque chose qui est beaucoup plus...
C'est visionnaire, puisque aujourd'hui, plus que jamais, au moment où la guerre russe d'invasion en Ukraine bat son plein, si j'ose dire, on travaille à la défense européenne, mais c'est sans doute très tôt, puisqu'on est en 50, toujours, donc 5 ans après la fin de la guerre. Et ceux qui étaient déjà opposés à la déclaration Schuman dans le paysage politique français, c'est-à-dire les gaullistes d'un côté qui considéraient qu'il y avait un partage de souveraineté qui les mettait mal à l'aise, et les communistes de l'autre qui, d'une part, se demandaient si c'était bon pour les ouvriers du charbon et de l'acier, puis qui, évidemment, voyaient bien le caractère de protection contre l'Union soviétique de l'autre, sont rejoints dans leurs doutes et leur opposition par d'autres. Par la SFIO, une partie des radicaux, une partie des modérés, cette idée française de la communauté européenne de défense devient un débat français extrêmement virulent. Raymond Aron rappelle, entre janvier 53 et août 54, se déchaîna la plus grande querelle idéologico-politique que la France ait connue depuis l'affaire Dreyfus. On se dispute en France sur la défense européenne. Et c'est la France qui a lancé l'idée en 50, qui va la tuer en 54, au moment du gouvernement Mendès France, qui renonce à la communauté européenne de défense. Autant dire que depuis lors, à chaque fois que la France parle de défense européenne, elle porte le poids de ce virage à 180 degrés, et les Européens nous demandent mezzo voce si cette fois-ci on est sérieux.
Aujourd'hui encore, vous voulez dire?
Ah, ça a laissé des traces. Et moi, je me souviens, parce que
en même temps, les choix industriels ne sont pas toujours du côté de l'Allemagne ou de l'Angleterre ou de la France, des choix de coopération en matière d'armement. On l'a encore vu sur les avions militaires.
C'est extrêmement compliqué. On sait que quand on a fait, par exemple, l'Airbus militaire, la 400M, ça a pris du temps, ça a pris du retard, ça a coûté de l'argent. Maintenant qu'on essaye de faire le successeur du Rafale, c'est complexe, évidemment, sur le plan industriel, parce que on demande à des concurrents de devenir des partenaires. C'est toute la logique et c'est pas évident. Mais on voit aussi qu'on est face à des menaces communes et qu'on a besoin de faire plus. Moi qui suis une admiratrice éperdue de Romain Gary, comme beaucoup de diplomates, je rappelle que Romain Gary, qui était porte-parole de la France aux États-Unis à l'époque, un poste que j'ai occupé longtemps après, et qui avait expliqué aux Américains pendant des années pourquoi il fallait faire l'Europe de la défense, est obligé d'expliquer le contraire et il écrit une lettre de démission qui veut envoyer à Paris, il passe une nuit blanche, et avec beaucoup de justesse, et je me suis souvent rappelé ces réflexions de l'époque, il se dit, si c'est une majorité démocratiquement élue dans mon pays qui décide qu'on ne fait pas quelque chose, je n'ai pas de raison de penser que je suis plus intelligent tout seul.
Alors cette communauté européenne de défense capote pour bloquer, finalement c'est le gouvernement Mendès-France, et Mendès-France qui en 54 en quelque sorte jette l'éponge, dit bon, ben, ça suffit. La relance se fait, alors de manière très schumannienne, si je puis dire, sur le terrain économique, d'un marché commun. Ça va être les négociations de 56 qui aboutissent au traité de Rome en 57 et la création de la communauté économique, celle-là, européenne. Alors, en quoi est-ce que cette CEE est véritablement un prolongement de la CECA, quelles innovations apporte-t-elle, Laurent Varlozé?
Oui, je crois que c'est pour ça que la déclaration Schuman sert aujourd'hui de fête de l'Europe. Comme vous le dites, il y a un modèle CECA et qui, déjà, il faut rappeler sa flexibilité. Donc Robert Schuman parle de fédération, mais à l'époque, le mot fédération est assez mal défini. Donc ça peut recouvrir beaucoup d'acceptation. Quelqu'un comme Bidault, dont on a beaucoup parlé, qui est un démocrate chrétien, avait soutenu la déclaration Schuman, mais il n'était absolument pas fédéraliste. Il était très atlantiste, très favorable à l'Alliance américaine, à l'OTAN. Mais il était absolument pas fédéraliste. Donc le modèle Schuman, voilà, c'est pas celui d'une fédération européenne, c'est celui d'une communauté qui peut devenir une fédération, qui peut devenir un organe intergouvernemental.
Et comme dans une copropriété, il y a un syndic de copropriété, voilà, qui s'appelle la commission de Bruxelles.
Et donc le modèle de la CECA a été interprété dans le sens très fédéraliste avec la CED, ça a échoué. Bon, c'était un projet de circonstance qui était lié à la guerre de Corée, qui avait vraiment créé une espèce de phobie anti-soviétique en 1950. Et ensuite, donc, effectivement, on prolonge la CECA plutôt dans le domaine économique avec le traité de Rome. Et ce qui est intéressant, c'est que le traité de Rome, encore aujourd'hui, c'est le traité qui est à la base du traité de Lisbonne. C'est-à-dire que le traité de Lisbonne est composé de deux traités. Bon, c'est assez compliqué, mais un certain nombre d'articles sont repris de ce traité de 1957.
Traité de Lisbonne qui est la base juridique de l'Union européenne aujourd'hui.
Voilà. Et donc, c'est important parce que nous, en tant que citoyens européens, qu'on aime ou pas l'Union européenne, on a un certain nombre de droits qui sont issus de ce traité de Rome du 25 mars 1957 qui crée la communauté économique européenne. Sur plus ou moins le modèle de la CECA avec quelques petites modifications.
Qu'est-ce qu'il y a dans ce marché commun?
Le modèle, donc, c'est d'avoir un modèle institutionnel qui, je l'ai dit, est ni fédéraliste ni intergouvernemental, un peu entre les deux. La novation de la déclaration Schuman, qui représente le traité de Rome, c'est d'introduire un arbitre. Voilà, donc c'est la commission, les cours de justice, et avec un droit supranational, c'est-à-dire un droit qui s'impose aux États directement sans avoir besoin d'une ratification parlementaire. Donc c'est-à-dire que nous, en tant que citoyens, on peut demander une application directe du droit européen. Alors là, au début, c'était un petit peu discuté, parce que ça concernait surtout les acteurs économiques, mais disons que c'est ça la novation. Et ça, c'était demandé par la France, parce que la déclaration Schuman, il y avait quand même deux éléments à dire. Alors d'abord, sur l'aspect fait en catimini, le Conseil des ministres a été informé deux fois, Bidault aussi, et Bidault l'a soutenu. C'était une idée, je disais, qui était dans l'air. Simplement, la manière dont ça a été formalisé, de manière assez ambitieuse, effectivement, là est nouvelle. Et le deuxième élément, c'est que cette déclaration Schuman, pour comprendre son succès, il faut comprendre que c'est un modèle flexible sur le plan institutionnel, mais aussi sur le plan économique. C'est l'Europe du marché, c'est pour ça qu'on a appelé la CE le marché commun, mais c'est un marché régulé avec quelques éléments sociaux, industriels, et puis surtout avec des institutions qui permettent de faire respecter la même loi. Parce que les Français, quand ils créent la déclaration Schuman, se disent, nous, ce qu'on veut, c'est un petit peu technique, mais c'est très important, c'est avoir accès au charbon allemand, parce qu'on n'avait pas assez de charbon en France, au même prix que les entreprises allemandes. Parce que si les entreprises allemandes ont le charbon moins cher, elles seront plus compétitives, notamment les entreprises sidérurgiques, parce que le charbon est utilisé pour faire de l'acier à la fois comme combustible, mais aussi pour comme matériau, parce que pour faire de l'acier, vous mélangez du minerai de fer et du charbon. Mais il faut du bon charbon, et il y en avait beaucoup dans la Ruhr. Et c'est pour ça que les Français demandent dans la déclaration Schuman des institutions supranationales qui vont servir d'arbitre pour contraindre éventuellement les entreprises allemandes qui ne respecteraient pas les règles communes. Donc vous voyez, cet aspect-là supranational, fédéral, il est demandé pour les Français, mais dans un secteur bien déterminé. Et donc le traité de Rome reprend la logique, et c'est pour ça qu'on a cette idée d'un marché régulé, commun.
Qui porte sur quoi? Sur les biens, les services, les marchandises?
Au début, c'est essentiellement surtout sur les marchandises. La libération des services, des capitaux viendra plus tard. Mais il y a la libération des mouvements de personnes qui vient un petit peu. Alors nous, ça ne nous intéressait pas les Français, mais je l'ai dit, ça intéressait les Italiens. Et c'est important parce que les droits qu'on a aujourd'hui en tant que citoyen européen d'aller dans un autre pays, d'avoir la sécurité sociale, la retraite, de prendre sa retraite au Portugal, par exemple, comme font beaucoup de Français, de travailler, d'étudier dans un autre pays, originellement, ça vient de cette demande des Italiens que les mineurs italiens de charbon qui travaillaient dans le nord de la France, en Belgique, en Allemagne, aient eux aussi les mêmes droits en tant que de sécurité sociale et puissent aussi toucher la retraite française de retour dans leur pays et que leur famille aussi puisse toucher les mêmes droits. Donc, c'est le marché à la base avec quelques éléments sociaux assez peu nombreux parce qu'à l'époque, on construisait les États-providence nationaux. Les forces favorables aux lois sociales se concentraient sur les États-providence nationaux. Le traité de Rome en France, il a été négocié et signé par Guy Mollet, président du Conseil socialiste. C'est lui qui est à l'origine de la troisième semaine de congés payés. Donc, sa priorité, c'était de construire l'État-providence en France. Et puis, il demandait après une harmonisation sociale au niveau européen. Mais les six pays de la CE étaient assez proches en termes d'État-providence. Donc, c'était c'était pas un gros enjeu à l'époque.
Et Nathalie Loiseau, c'est l'époque des politiques communes qui ont un certain succès. La politique agricole commune et puis des objectifs industriels. On pense à Airbus, à d'autres choses. C'est la période faste de la communauté européenne.
En effet, ce n'est pas qu'un marché. On a appelé ça le marché commun. Donc, je dis, c'est un marché. On pense qu'à échanger des marchandises. Mais très vite, 62, la politique agricole commune. Donc, on est du côté des producteurs. On s'aperçoit. Puis, la politique de la pêche viendra. Et puis, des réalisations industrielles, Airbus, plus tard Ariane, etc., etc. C'est un marché, mais c'est un marché régulé. Est-ce que on est dans une
à géométrie variable en fonction des pays? Tous les pays ne sont pas à chaque fois dans les politiques
alors,
industrielles.
Alors, il y a aussi ça, c'est-à-dire que assez vite, on n'impose pas à tout le monde d'avancer exactement au même rythme. Quand c'est possible, on le fait, mais on verra que sur des sujets comme, alors sur les politiques industrielles, vous l'avez dit, mais sur des sujets comme Schengen. Tout le monde n'est pas dans Schengen. Et puis certains qui ne sont pas dans l'Union européenne sont dans Schengen comme la Suisse.
Schengen, il faut rappeler ce que c'est, parce que c'est un peu...
Ah bon, je vous laisse faire. Vous faites ça mieux que personne.
C'est l'espace frontalier commun.
Voilà, exactement. On abat les frontières intérieures.
Il y a une libre circulation des personnes, comme vient de...
On abat les frontières intérieures et on renforce les frontières extérieures. On a, pour le moment, surtout fait la première partie. Et on travaille maintenant beaucoup à la deuxième.
On va aussi venir.
Sur l'euro, c'est pareil. Tout le monde n'est pas dans l'euro. Donc, il y a cette liberté d'y aller ou de ne pas y aller en fonction de ses choix propres. Mais je voudrais... parce qu'on se demande si c'est le marché, si ça devient une Europe libérale. Et puis, on entend beaucoup parler d'Europe ultra-libérale, néolibérale. En réalité... C'est l'invention d'un modèle, ce qu'on aura appelé l'économie sociale de marché, qui n'est bien sûr ni l'Union soviétique, ni les États-Unis. C'est-à-dire que très vite, l'idée de devoir réguler, de penser que la main invisible du marché ne suffit pas, c'est l'idée européenne. On le voit avec la CECA, avec le prix du charbon et de l'acier. On le verra ensuite sur... beaucoup d'autres régulations, la régulation bancaire qui vient après la crise de 2008. On le voit en ce moment avec la régulation du numérique. Seule l'Europe réussit à réguler le numérique, à ne pas être le Far West américain et à ne pas être la prison numérique chinoise. C'est, j'allais dire, les gènes de la construction européenne. C'est cette économie sociale de marché qui essaye de réguler, de lutter contre les monopoles. Alors là aussi, c'est la politique de la concurrence. Certains disent, oh là là, la politique de la concurrence libre et non faussée, c'est vraiment très très libéral. Mais ça évite aussi que des monopoles imposent leurs lois aux consommateurs. C'est beaucoup une Europe des consommateurs. Ça a été assez peu, longtemps, une Europe des producteurs. On s'en aperçoit maintenant qu'on veut sortir de nos dépendances, qu'on veut avoir des semi-conducteurs européens, par exemple, des panneaux solaires européens, etc. etc. On s'aperçoit qu'on n'a pas fait grand-chose en termes de politique industrielle, en vrai.
Je reviens, une étape en arrière par rapport à la situation actuelle. Il y a eu ce moment très important des années 80, j'allais dire les années Delors, Mitterrand, Kohl, le chancelier allemand, le président français et le président de la commission, Delors, qui ont mis en chantier l'acte unique, le marché unique et l'euro. Laurent Varlouzet, est-ce qu'on peut dire que là encore, un peu comme en 57 avec le traité de Rome, on a une sorte de démonstration que, au fond, la méthode Schuman continue à être la boîte à outils, au fond, de fabrication de cette intégration européenne.
Oui, dans une certaine mesure, parce qu'il y avait cette flexibilité de la déclaration Schuman initiale. Encore une fois, c'était pas un traité. Le traité de Paris vient après. La déclaration énonce des principes qui sont relativement ouverts sur le plan politique. Je l'ai dit. Bon, fédération, mais qu'est-ce que ça voulait dire fédération à l'époque? Ça pouvait être un espèce de club d'État. Et puis Nathalie Loiseau l'a dit. Moi, j'ai écrit un livre Europe contre Europe, entre liberté, solidarité et puissance. Et c'est un petit peu ces trois-là. Alors, c'est surtout une Europe du marché régulé, mais c'est pas forcément une Europe ultra-libérale, même s'il y a eu des dérives ultra-libérales dans la construction.
parler d'ordolibéralisme et de cet impact en particulier sur les politiques industrielles en fonction des pays.
Oui,
et...
ça j'en parle beaucoup et dans mon livre sur la concurrence. Mais après, il y a différentes formes de libéralisme. Dans mon livre, je mentionne que le premier à avoir eu cette idée de la construction européenne par le marché, c'était Keynes en fait en 19. Alors il appelait pas ça la construction européenne, mais ses préconisations pour l'Europe en 1919, ça ressemble un peu à ce qui s'est fait après en 48-50. Et Keynes, bon, c'était le théoricien de l'interventionnisme de l'État, mais c'était un libéral. Effectivement, il y a eu plusieurs formes de libéralisme. C'est le marché qui reste au centre de la construction européenne, avec des éléments de solidarité, bon, politique de cohésion, je l'ai dit aussi, la sécurité sociale pour ce qu'on appelait les migrants à l'époque, on appelait sécurité
sociale pour les migrants, politique régionale,
distribution en commun de vaccins, par exemple, pendant le Covid-19, mais ça c'est resté une dimension secondaire pendant longtemps, parce que dans les années 50, la priorité c'était de construire les états-providence nationaux. Et puis l'aspect puissance, l'aspect volontariste, avec l'échec de la CED, ça a été tout de suite avorté, même si le général de Gaulle a tenté de relancer dans les années 60. Et Airbus, ça s'est fait, mais en dehors de la CE. Et aujourd'hui, on en reparle beaucoup à la faveur ou à la défaveur, je dirais, d'un contexte international beaucoup plus nationaliste. Mais il faut dire aussi que cette construction européenne, ce modèle de la déclaration Schuman, il a ensuite pu être accepté par le général de Gaulle. C'est le traité de Rome, il a été signé en 57. Pendant un certain temps, on s'est demandé s'il allait vraiment être appliqué ou si la France allait pas faire comme pour la CED, pas le rejeter parce qu'il a été ratifié, mais pas pouvoir l'appliquer parce qu'on était en crise financière. Et c'est le général de Gaulle qui rétablit les finances et qui choisit d'appliquer le traité de Rome, alors même que certains pensaient qu'il allait le rejeter. Parce que, il avait bien compris, alors faut bien dire aussi que la CECA, qui est issue de la déclaration Schuman, c'est pas du tout transformé en fédération, c'est resté un organe assez modeste. Le général de Gaulle s'est dit que finalement c'était un traité de commerce, de marché régulé qui était utile pour la France, pour la modernisation du pays.
Mais avec l'acte unique dont parlait Gérard Courtois, on passe à toute autre chose, et à des choses beaucoup plus contraignantes. Et c'est là où la question de la monnaie unique et un passage de la monnaie unique à la monnaie commune va quand même amener à des situations très contrastées aussi sur le plan social entre les différents pays. On pense par exemple à ce qui s'est passé en Grèce ou à la désindustrialisation française qui va s'accélérer en même temps qu'on va mettre en place la monnaie unique, Nathalie Loiseau.
Alors c'est aussi là où le Royaume-Uni grince des dents. On voit Margaret Thatcher qui est à la fois très pour le marché unique, mais qui est très contre la solidarité.
Vous voulez
au sein
dire
de...
libéral, c'est ça que vous voulez dire en
ils parlant sont très de... tournés vers le marché. Mais quand on leur parle solidarité et le fait que les États les plus riches aident les moins riches, et c'est aussi une des bases du fonctionnement de l'Union européenne, la politique de cohésion, c'est une grande partie du budget européen. Là, on a Margaret Thatcher qui dit « I want my money back ». Je ne veux pas payer plus que ce que je reçois. Donc là, elle est déjà plus
avec
dans la même logique.
Même des mots de mépris qu'on va entendre, c'est-à-dire les pays du club méditerranéen.
Alors, et la crise financière, et en particulier celle de la Grèce, c'est évidemment une tâche sur la façon dont l'Union européenne a traité certains de ses membres. Alors, on sait que la Grèce est entrée dans l'Union européenne en 1981, en mentant assez allègrement sur ses statistiques, avec une espèce de romantisme. Je me souviens de Giscard d'Estaing qui disait « On ne dit pas non à Platon ». Bon, c'est sympathique, mais la Grèce entre dans l'Union européenne avant...
Ça n'est pas Platon qui tenait les comptes.
Voilà, ça n'est pas Platon qui tenait les comptes. Et c'était Goldman Sachs qui conseillait les Grecs sur la manière de mentir à la Commission. Mais on voit que la Grèce entre avant l'Espagne et le Portugal, qu'elle ne fait pas vraiment le ménage dans ses comptes et qu'évidemment, il y a un moment où ça se passe pas bien. On va pas rentrer sur toute la crise grecque. Mais il y a des mots d'une violence extrême de la part de l'Allemagne à l'encontre des pays dits du Club Med, c'est-à-dire vous êtes au sud de l'Europe, vous travaillez pas, vous faites pas d'efforts et vous voudriez pas en plus qu'on paye pour vos difficultés. Ça a été évidemment très mal reçu, très mal perçu. À la fin des fins, très tardivement, finalement, c'est 750 milliards qui sont versés pour venir en aide à ces pays à des conditions draconiennes qui imposent une austérité à la Grèce, à l'Espagne, au Portugal. Alors on peut ne voir que ça. On peut se dire qu'on a d'abord essayé de sauver l'euro et de sauver les banques avant de sauver la population grecque. On peut voir qu'à la fin, on y est arrivé quand même. C'est-à-dire que non seulement la monnaie unique n'est pas morte, et tout le monde annonçait sa mort, que aussi la Grèce aujourd'hui est un pays qui s'est relevé, l'Espagne, le Portugal, qui a retrouvé le chemin d'une croissance dans la douleur, c'est exact, avec des mots qui ont heurté, parce que quand on est entré dans l'euro, les critères de Maastricht, on les a pas tous respectés tout le temps. La France, quand même la championne pour ne pas respecter les critères de Maastricht. L'Allemagne ne les a pas toujours respectés non plus. Et là, il n'y a pas eu les mêmes mots. Aujourd'hui même, quand l'Allemagne décide de vendre une partie du port de Hambourg à une société chinoise, il ne faut rien dire. Quand la Grèce a vendu, parce qu'elle devait vendre les bijoux de famille, le Pirée à la Chine, elle s'est fait insulter. Il y a ce deux poids deux mesures auquel il faut être très attentif.
Laurent Varlouzet, quand on refait tout ce film qui part de 1950 jusqu'à aujourd'hui, et y compris par exemple les mesures mises en commun pour faire face à la crise Covid, les mesures budgétaires, on a l'impression au fond d'une sorte de développement, j'allais dire presque mécanique, presque inéluctable. Est-ce que c'est une idée juste ou est-ce que c'est une idée fausse ?
Je pense qu'il n'y a pas de développement mécanique ou inéluctable. Il y a une boîte à outils, la déclaration Schuman, c'est une boîte à outils qui ensuite est utilisée ou pas, et qui pourra être utilisée à l'avenir dans des sens différents, un sens fédéraliste, un sens plus interétatique. L'Union européenne peut peut-être subsister, mais se démanteler, se vider de sa substance si des gouvernements d'extrême droite, par exemple, arrivent au pouvoir dans un nombre important de pays. Je voulais revenir juste sur la notion de valeur ajoutée ou de valeur ajoutée négative avec la question sur la désindustrialisation, sur la crise grecque. Oui, la crise grecque, c'est sûr qu'il y a une valeur ajoutée négatif parce que on a fait peser au peuple grec à la fois les erreurs de son gouvernement qui avait maquillé les statistiques et aussi les défauts de la zone euro. Delors, quand il voulait créer la zone euro, voulait créer aussi des institutions de solidarité et aussi une régulation bancaire. C'était dans le rapport Delors de 89. Et puis finalement, on a fait une union monétaire un peu minimaliste sans ces éléments de solidarité qu'on a créé un petit peu sur le tard.
Et sans politique budgétaire, ce qui était quand même un peu acrobatique,
voilà.
Disons.
Et sans politique budgétaire. Exactement.
Mais avec des conséquences quand même qu'on subit encore en ce qui concerne la Grèce, puisque par exemple, une des choses qui leur avait été demandée, c'est de diminuer considérablement le nombre de fonctionnaires. Au moment où on a un développement de la crise migratoire, les Grecs sont dans l'incapacité d'enregistrer les migrants, puisqu'il n'y a plus de fonctionnaires pour le faire. On essaye d'envoyer des fonctionnaires d'autres pays pour essayer de les aider, mais ces fonctionnaires des autres pays parlent pas le grec alors que l'ensemble du système juridique est basé sur la langue grecque. Nathalie Loiseau, on est quand même dans le paradoxe.
On est dans le paradoxe, mais on est aussi sur un sujet où il y a des ambiguïtés de la part des pays dont la géographie font qu'ils sont des pays d'arrivée des migrants. On le voit avec l'Italie, on l'a même vu avec la Pologne pendant l'arrivée instrumentalisée de migrants depuis le Bélarus. La Pologne aurait pu faire appel à Frontex, l'agence européenne de contrôle des frontières extérieures, qui en plus a son siège à Varsovie. Elle a préféré ne pas le faire. Il y a une ambiguïté qui fait que la question migratoire, qui ne peut être véritablement traitée qu'au niveau européen, a du mal à passer ce cap pour des bonnes et des mauvaises raisons de la part de beaucoup de pays autour de la table de l'Union européenne.
Et alors, tout à l'heure, vous avez parlé de Platon et de la question de la Grèce, mais justement, dans l'élargissement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a été un peu précipité ? Est-ce qu'on était sûr que l'ensemble des pays partageaient justement cette philosophie à la fois de la paix, Schuman, et ces valeurs qu'on essaye de mettre en avant comme étant celles qui doivent structurer
Alors, c'est jamais gagné. C'est jamais gagné. Tout à l'heure, Laurent Varlouzet disait si demain, une majorité de pays dans l'Union européenne sont dirigés par des gouvernements d'extrême droite, on peut avoir de terribles surprises. Et puis, on a vu sur la Hongrie qu'on part d'un Viktor Orban extrêmement modéré quand il arrive au pouvoir. Les premiers discours d'Orban, il n'y a vraiment rien de choquant ni de surprenant. Et vous avez aujourd'hui quelqu'un qui est dans une outrance et dans une dérive illibérale. Et vous avez raison de dire qu'il faut veiller en permanence à la protection des valeurs de l'Union européenne. Et là-dessus, on a fait un pas de géant qui est passé un peu inaperçu. Et j'en suis fière parce que c'est parti du Parlement européen. Au moment du plan de relance, donc on est dans la crise du Covid, on fait déjà évoluer l'Allemagne de manière considérable puisqu'elle accepte un endettement en commun, ce qui était pour, si on ose dire, les ordo-libéraux allemands, l'enfer sur terre. Et nous, parlementaires européens, disons très bien, on va donner de l'argent aux pays européens pour s'en sortir avec le Covid, on va mettre une conditionnalité sur le respect de l'état de droit. Et je peux vous assurer que ça a été une bataille homérique, pour reprendre des références grecques. On y a passé beaucoup de nuits d'insomnie. On y est arrivé. Et aujourd'hui, au moment où on parle, Viktor Orban ne touche pas l'argent européen parce qu'il est devenu le tenant d'une démocratie illibérale. Et il est en train de regarder dans les lois qu'il a fait passer, celles qu'il peut annuler pour pouvoir enfin avoir droit au fonds européen. Alors quand on ne convainc pas les gens dans leur cœur, on touche à leur portefeuille. C'est peut-être pas très idéaliste, mais c'est quelque chose qui est en train de fonctionner. Et naturellement, quand on travaille à l'élargissement, c'est un des sujets qu'on a par exemple aujourd'hui avec la Serbie. Si la Serbie ne se rapproche pas des valeurs européennes, c'est pas l'Europe qui lui fermera la porte, c'est elle qui aura choisi de faire autrement.
On arrive au terme de cette émission. Mais Laurent Varlouzet, tout à l'heure, Nathalie Loiseau a employé une expression que j'ai trouvée très symptomatique. Elle a dit, en Europe, on y arrive quand même. Est-ce qu'au fond, c'est pas ça une manière de résumer cette espèce de démarche pendant 70 ans qui, en dépit de toutes les difficultés, en dépit des contraintes et des obstacles, et des pesanteurs historiques, politiques, etc. Est-ce que c'est pas ça, au fond, le propre de cette construction et de cette intégration européenne? On y arrive quand même.
Oui, parce que c'est vrai que c'est un projet extrêmement ambitieux et en même temps qui doit pas couvrir tout ce qui se fait au niveau national. Tout à l'heure, Didier Leschi, vous parlez de la désindustrialisation. Bon, beaucoup de pays se sont désindustrialisés en étant en dehors de l'Union européenne, en étant en dehors de l'euro. Donc, est-ce que c'est vraiment l'euro qui est responsable de la désindustrialisation? Peut-être pas. Ça dépend. Il y a beaucoup de facteurs qui comptent. C'est comme l'austérité. Hein. Les Britanniques ont voté pour le Brexit à cause de l'austérité. Bon, leur gouvernement n'était pas dans la zone euro. Pour conclure là sur la déclaration Schuman, je pense que c'est ça l'idée que je voudrais faire passer. C'est cette idée que justement l'Europe n'est pas inéluctable. Hein. La déclaration Schuman, c'est ouvre un livre, hein, elle écrit la première page et après le reste c'est à nous de l'écrire en fait. C'est un texte d'actualité, je dirais, par sa générosité, on en a parlé, mais aussi par son ingéniosité et finalement par sa flexibilité.
Gérard Courtois, donc l'Europe n'est pas un fantôme en fait?
L'Europe n'est pas un fantôme, et pour une bonne raison, c'est que l'histoire a largement donné raison à Robert Schuman, parce que 73 ans après sa déclaration, l'Union européenne s'est construite. Effectivement, l'Europe des 6 est devenue l'Europe des 27. Elle est passée du marché commun, du charbon et de l'acier, au marché unique des personnes, des biens, des services. Et 20 de ses membres partagent la même monnaie, ce qui n'était quand même absolument pas écrit d'avance. Les politiques communes, ce que Schuman appelait les solidarités de fait, se sont démultipliées. Pour autant, son objectif final, qui était quand même, dans les termes de Robert Schuman, la fédération européenne, est resté hors d'atteinte. Cet objectif, si on résume, s'est heurté aux réticences des États, aux inquiétudes des peuples, aux résistances de l'histoire, bref, à la politique, trop occultée peut-être par le primat économique de cette construction. Il reste que l'échelle européenne apparaît plus que jamais comme le cadre pertinent pour affronter un certain nombre de défis. Alors on a vu que le défi migratoire, c'était tout sauf gagné. En revanche, l'Europe a marqué un certain nombre d'avancées par rapport à la crise climatique, par rapport au numérique ou sur le plan géopolitique. Cela n'invalide pas Robert Schuman, cela oblige peut-être à le réinventer. Merci Nathalie Loiseau, merci Laurent Varlouzet de nous avoir accompagnés dans cette traversée européenne.
France Culture, les manifestes qui ont changé le monde. À retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
C'était les manifestes qui ont changé le monde, une émission de Gérard Courtois et Didier Leschi. Préparé par Séam Boutata, réalisé par Guillaume Baldi, avec Manon Houssin à la technique. Demain, le manifeste de la conférence de Bandung.